Dans Témoignages ce matin, Lise, vous recevez Valeria Bécassis, journaliste et auteur de, je cite, Place des otages aux éditions du Cerf, un livre très personnel qui raconte le 7 octobre et les mois qui ont suivi à la première personne et en même temps un livre universel en hommage à tous ces héros israéliens et ces familles d'otages tellement courageuses. Je vous laisse en compagnie de Valeria Bécassis, Lise.
Valeria Bécassis, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Valérie, une question simple pour commencer. Pourquoi ce livre? Quand est-ce que vous avez décidé de l'écrire? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Et est-ce que pour vous, c'était peut-être comme une psychothérapie pour processer tous ces mois difficiles?
Écoutez, moi, j'ai travaillé à l'époque dans une télé, je faisais de la culture, je me suis retrouvée comme bon nombre d'Israéliens basculés dans la guerre dès le 7 octobre. J'ai été sur le terrain le 8 octobre et à partir du 8 octobre, je n'ai cessé d'être sur le terrain, d'aller sur tous les lieux de massacre, de désespoir, de malheur, de... Voilà, et ça, c'était nouveau pour nous tous, c'est-à-dire qu'on était dans un deuil, dans une tragédie impossible, incommensurable. Et au mois de novembre, vraiment, notre santé mentale commençait à vaciller, c'est-à-dire que le rythme où vous couchez à 2h du matin, vous vous réveillez à 11h, vous allez travailler, vous allez à la morgue, à l'aéroport, dans des enterrements. Voilà. Et c'était un rythme comme ça qui était continu. Au bout d'un moment, je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je vois, de tout ce que je note, puisque je prenais des notes tout le temps. Et voilà, et c'est en novembre que j'ai proposer à un éditeur d'écrire un livre parce que j'étais la seule française d'une certaine façon, franco-israélienne et française, à être tous les jours sur cette place des otages et tous les jours sur le lieu du massacre du 7 octobre. Et il m'a dit ok, et c'est comme ça que j'ai fait de mes notes, si vous voulez, un projet éditorial. J'ai commencé à écrire plus tard, mais c'était en novembre, c'est-à-dire, et c'était salvateur, c'était vraiment pour sauver mon mental, parce que ce qu'on a vécu, c'est inouï, c'est ce que je dis dans le livre, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, quoi. C'était, et ça l'est toujours d'ailleurs pour les Israéliens, monstrueux.
Bien sûr. Alors ce samedi 7 octobre, puisque le livre commence là-dessus, quand l'alerte sonne à 6h30 du matin, vous êtes chez vous à Tel Aviv avec Ava, votre petite fille de 9 ans. Est-ce que ça change tout, Valérie, d'avoir un enfant en responsabilité dans une situation pareille? Et vous posez d'ailleurs cette question terrible à la fin du livre, comment vont-ils grandir après ça?
Bah oui, ça pose une responsabilité parce que si vous voulez des alertes à la roquette, il y en a. On en a tout le temps. Le Nord en a tout le temps. Le Sud, je ne vous en parle même pas. Donc c'est une population qui est habituée. Tel Aviv, on est un peu plus protégé, on va dire. Donc on en avait eu quelques-unes, mais là, ce matin-là, j'étais seule. C'était samedi matin, comme tous les vendredis soirs, ma petite fille dormait chez sa safta, chez sa grand-mère, et donc on s'est retrouvées toutes les deux Et je me suis dit, tiens, pourquoi c'est ce que je raconte dans le livre, on se lève assez mécaniquement. J'ai vraiment le souvenir de ce moment comme ça, avec cette aube qui arrivait, et on est descendues toutes les deux mécaniquement au premier étage. Il n'y avait absolument personne au premier étage. Moi, j'habite un immeuble un peu, dans le sud de Tel Aviv, à Florentine, qui n'a pas d'abri. Et au premier étage, il n'y avait personne à cette première alerte. Et puis à la deuxième, on a commencé à voir un ou deux voisins. Et puis à la troisième, tous les autres voisins. Et là, je me suis dit, mais ma petite fille, cette petite perle que j'ai, et là, je m'adresse à toutes les grand-mères et à tous les parents, mais pour qu'elle va grandir comme ça, elle va grandir comme tous ces jeunes Israéliens, tous ces Israéliens, et j'ai compris que oui, parce qu'avant elle, d'autres Israéliens, et comme ça depuis 1948, ont grandi dans des menaces chimiques, dans des attaques, dans des attentats, dans des explosions de bus, dans des incursions dans des discothèques. Voilà, et donc j'ai compris que cette petite fille allait grandir là-dedans, et c'est vrai que les deux premiers jours, jusqu'au moment où son père lui a trouvé un abri, c'est-à-dire un appartement avec un abri, je n'ai eu de cesse de la protéger, de la protéger. Moi, je suis française, j'ai grandi dans un pays sans guerre. La guerre, on en parle dans les journaux, mais elle va la vivre tout le temps. Et c'est ce qu'elle vit maintenant, elle a 10 ans. Et ils ont des cours à l'école, ils ont de la thérapie de guerre. Et ça, les gens, je pense, qui ne vivent pas en Israël ne le savent pas, ils ne le perçoivent pas.
Oui, tout à fait. Justement, Valérie Abécassis, on voit bien le débat dans le livre avec votre fille. Pourquoi on ne rentre pas en France quand on voit ce qui se passait à ce moment-là? C'est toujours d'actualité. Finalement, vous êtes rentrée. Est-ce que ça vous manque de ne pas être en Israël? Où vous en êtes de ce débat?
Alors, non, il y a plusieurs choses. Là, dans le deuxième chapitre, en fait, moi, j'accompagne dans le livre, j'accompagne tout ce qu'on a pu vivre en Israël. Je donne finalement à voir aux Français, notamment aux lecteurs français, mais aux lecteurs belges, suisses, enfin francophones, ce qu'ils ont su, ce qu'ils ont lu, mais ce qu'ils n'ont pas vu forcément. Et moi, je raconte de l'intérieur tout ce que l'on a vécu. Cette scène que je décris au tout début, c'est, on est le 7 octobre, je vois tout ce qui tombe, je vois les 1200 terroristes qui sont entrés par le sud du pays, je vois l'effondrement sécuritaire d'Israël, je vois tout ça, et je ne suis absolument pas héroïque. Je dis à ma fille, on rentre, et c'est elle qui me dit, mais enfin, t'es complètement folle, d'abord on rentrera pas, et ensuite si on rentre, ça veut dire qu'ils ont gagné, ça c'est le premier point. Je pars d'un point dans le livre, j'en arrive à un autre point à la fin du livre, et c'est un livre que j'aurais pu continuer. Maintenant, je suis à Paris en ce moment, d'abord parce que j'ai des parents très âgés, ensuite parce que ce livre vient de sortir, donc je suis là pour la promo, mais quelqu'un de perdu, comme beaucoup de gens. On ne sait pas où on est vraiment. On est ici, on est là-bas. On ne quitte jamais vraiment Israël. On ne quitte jamais vraiment la France. Bon, voilà, je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas partie non plus. Pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, je suis là.
On voit d'ailleurs dans le livre que vous vous sentez française même après 11 ans en Israël. Et on vous voit même dans un appartement avec des voisins avec qui vous communiquez pas forcément très bien, parce qu'on comprend que vous parlez pas très bien hébreu, mais on saisit que ça ne vous a pas empêché du tout, Valérie, de vivre la solidarité israélienne.
C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui vraiment nous a sauté aux yeux, en tout cas ceux qui n'ont pas l'habitude de ça. J'ai vu le 8 octobre des files d'attente exceptionnelles. On était quand même dans un pays qui était divisé, déchiré, par les dissensions liées à la volonté du Premier ministre Netanyahou de mettre en place cette réforme de la justice. Donc, avant le 7 octobre, je vous rappelle qu'il y avait tous les samedis soirs des centaines de milliers de Tel Aviv, de Yerushalayim, de gens dans les grandes villes notamment, hein, c'est vraiment les grandes villes, qui manifestaient, qui criaient contre le gouvernement de Netanyahou, qui criaient contre sa personne, vraiment des insultes, enfin, c'était d'une violence incroyable ce qui s'est passé. Donc on était dans une société qui était divisée entre les laïcs et les religieux, les gens de gauche et les gens de droite, enfin c'est un pays vraiment chaotique pour ça. Et à partir du moment où il y a eu ce carnage, cette attaque épouvantable, unique dans l'histoire d'Israël, j'ai assisté à une forme d'une union sacrée, on va dire, j'aime pas, c'est un peu banal comme expression, mais de solidarité exceptionnelle dans les appartements, dans les maisons, dans les quartiers. Chaque quartier s'est mis à distribuer des vêtements pour les déplacés du Sud, donner du sang, donner des colis alimentaires. Où que j'ai été pendant la couverture de cette guerre, où que j'ai été, c'était devant le centre de commandement du front intérieur comme la Kiria à Tel Aviv, que j'ai été à l'aéroport, que j'ai été dans des bases militaires, que j'ai été dans des hôpitaux, j'ai vu des gens distribuer à manger, donner des cafés, donner de l'eau. Quand j'étais devant la Shura, qui est la morgue, qui est l'une des morgues les plus importantes d'Israël, c'était un moment que je décris épouvantable, où la mort régnait entièrement partout. Il y avait devant cette choura, devant ces milliers de familles éplorées, des juifs, des non-juifs, des musulmanes voilés, des chrétiens qui essayaient de faire matcher l'ADN du t-shirt de leur enfant ou de la brosse à dents de avec les données qui étaient à l'intérieur pour voir si dans les corps qu'on voyait de l'autre côté, c'était le corps des leurs ou des morceaux de corps. Donc j'ai vu dans ce climat épouvantable des gens qui dressaient des tables et qui donnaient à manger, parce que c'était 24 heures sur 24. La douleur ne s'arrêtait pas, le deuil ne s'arrêtait pas, les larmes ne s'arrêtaient pas. Et il y avait partout, partout, des religieux, des non-religieux, des laïcs, des bobos, des hippies, des espèces de branchouilles qui offraient à manger, à boire, du sang, des vêtements. Et ça, jamais de ma vie, j'ai vu ça, jamais, nulle part, nulle part. Et ça, c'est vraiment, c'est Am Yisrael Chai, quoi. C'est la chanson de Eyal Golan, c'est Ahad Aham, c'est vraiment tous pour tout le monde.
Vous racontez dans le livre, Valérie, que votre voisin Gideon est mort pendant qu'il était en Milouim, dans l'unité Yahalom, et vous écrivez les morts, je ne les vois plus à la télé, je les vois sur le palier de la porte d'à côté. C'est ça que vous voulez expliquer aux lecteurs français, que ces massacres ont touché tous les Israéliens sans exception?
Écoutez, oui, déjà paix à son âme, je revois sa tête, c'est un jeune homme comme ça, je raconte, je le croise dans l'escalier, il y avait un climat particulier, on ne s'est pas parlé, moi je montais, lui descendait avec son sac, on s'est fait un signe de tête, il a compris j'ai compris où il allait, et sa femme, je l'ai appris plus tard, était enceinte. Et puis un jour, je monte à la maison avec ma petite fille, et puis je vois un panneau, vous savez, ces panneaux en noir et blanc de deuil. Et donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lis Gideon, et je me suis dit, peut-être qu'il a perdu son père, peut-être que je ne voulais pas, je regardais la porte comme ça, je ne voulais pas imaginer que c'était lui qui était mort, et ça a été confirmé. J'ai vu ensuite dans l'escalier l'armée qui est venue déposer une vingtaine de chaises, et puis j'ai vu monter et descendre toute cette jeunesse, Lise, toute cette jeunesse à la Shiva, c'est que des gamins qui avaient 30 ans. C'est pas, vous comprenez, c'est pas des. Enfin, c'est dingue. Et donc, j'ai vu la mort là, sur mon palier, pendant une semaine, ces jeunes qui étaient avec Gideon, qui est parti, qui laisse sa femme enceinte. C'est une. Sa femme est hollandaise, sa femme débarquait d'Hollande. Je crois qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Comment des Hollandais se disent que ma fille épouse un garçon et il meurt au combat. Il a été. C'était un démineur, mais c'est monstrueux. Et donc, je l'ai vu de près. La mort, je l'ai vue, évidemment, parce que. Auparavant, j'ai assisté à Israël, c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants, donc vous avez forcément quelqu'un qui a été touché, soit parce qu'il a un ami d'un ami qui était à la Nova Fest, soit parce qu'il a un ami qui était à Gaza, soit parce que son propre fils, tous nos amis, vous savez bien, il y a toujours un qui est à Gaza, ou un autre qui est au Liban, ou un autre qui est réserviste, tout le monde est touché. Mais là, Gideon, voilà, c'était sur mon palier, j'ai vu cette Shiva-là, de mon palier à moi, alors que j'ai assisté à d'autres Shiva, d'autres cérémonies, d'autres enterrements, mais c'était des gens dont j'avais vu le portrait. Là, je l'ai croisé en vrai et il est mort.
Et il est mort. Malheureusement, effectivement, que son souvenir soit béni. Merci beaucoup, Valérie Abécassis, journaliste, auteur de Place des otages, un livre très émouvant, très personnel et très universel en ce moment, en même temps. Merci d'avoir accepté.
Si je peux rajouter quelque chose,
oui,
je dis juste
bien
que
sûr.
Le livre est sur une liste en France d'un prix, le prix Renaudot, et par-delà la fierté, c'est que ça remet la lumière en France sur les otages dont on ne parle pas du tout en France, quand on n'est pas communautaire. Les otages, c'est voilà, tout le monde a oublié qu'il y a maintenant 100 otages à Gaza qui sont encore soit dans des tunnels, soit dans des sous-sols de villas. On n'en parle pas, et voilà. Et ce livre met la lumière sur nos otages. Merci, Elise.
Merci beaucoup, Valérie Abécassis. Kolakavod, comme on dit chez nous. Bonne journée et à bientôt.
Merci.